lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Rea Radio, la U Radio. Alejandro Pérez, journaliste au chômage, a imaginé une radio itinérante, bricolée, qui prend le temps de rencontrer, de raconter. Microphone en main, ce jeune cinéaste à la fine barbe traverse les villages de son enfance, dans la Sierra Sur de Jaén, en Andalousie, hissé sur une carriole à dos de mule, recueillant la parole des gens de pays. Sueur, abandon et système D. Plus de 400 km parcourus sur les routes et sentiers au pas cadencé de café, puis d'Antonella, témoignant d'un monde rural en déshérence face à la culture urbaine dominante. Partout, Alejandro trouve des soutiens, de l'écoute, un toit pour l'accueillir.
Après avoir avalé deux bières et compté nombre d'anecdotes, Manolo m'invite chez lui. Il a passé la matinée à la recherche d'une chèvre égarée, rescapée d'un petit troupeau, moins d'une dizaine de bêtes, qu'il n'a pu ou voulu vendre. Nous marchons dans l'obscurité sur un sentier. Arrivé sur le pas de la porte, il écarte le rideau de petits tubes de plastique et m'invite à entrer. Ni la méfiance ni les moustiques ne franchissent le seuil. À l'intérieur, son épouse Isabelle apporte des rondelles de saucisson, du jambon serrano coupé. Elle me raconte d'une voix aiguë et sur un ton énergique qu'ici, ils ont passé leur vie.
3 jours après notre mariage, Manolo partait déjà avec les chèvres sur la colline de Martina. Moi, j'ai grandi dans une exploitation agricole. Seuls les frères aînés ont appris à lire et à écrire pour aller à l'armée. À 11 ans, je me suis retrouvée sans père et avec 4 frères et sœurs.
Manolo n'a pas les mêmes états d'âme. J'ai 79 ans et ça fait plus de 70 ans que j'élève des chèvres. J'ai toujours vécu ici, j'en suis parti que pour mon service militaire au Maroc, à Melilla et à Nador. Il n'a pas oublié le calibre de son fusil Mauser et conserve la mallette en bois avec quelques mots peints par un ami dans les années 50. Ce couple ne s'est paré qu'à cette seule période. Isabelle.
Je suis allée à Madrid avec mon frère aîné. Lui y est resté. J'étais heureuse pendant ces années-là. J'avais de quoi manger, boire, je gagnais un peu d'argent. Mais tu vois, je suis revenue m'enterrer ici et n'en suis plus repartie.
Isabelle et Manolo vivent à La Hoya de Charilla, un groupe de fermes où vivaient plus de 30 familles il y a 60 ans. Seulement 3 aujourd'hui. Ici commence la Sierra Sur. Le toponyme englobe 10 communes au sud de Jaén, dans la partie orientale de l'Andalousie profonde. La Sierra Sur ressemble à un archipel de villages sur une mer de monts de moyenne altitude, de chênes verts et d'oliviers. Ce lieu à part dans la géographie et dans l'histoire recèle tout un lot d'histoires, de guérisseurs, de guerres civiles, de maquisards, d'émigrations et de métiers qui n'intéressent plus les jeunes générations. Les populations tentent de se maintenir à flot, dans la province qui possède le taux de chômage le plus élevé d'Espagne, plus de 40%. Avec une poignée d'amis, nous y avons lancé la radio itinérante L'Area Radio. L'Area Radio. L'Area Radio. Que l'on peut traduire par U Radio. Afin de témoigner du monde rural en déshérence, intéressant peu les tenants de la culture urbaine dominante. J'y anime des émissions en direct, de mai à fin juillet. Au début, les déplacements s'effectuaient avec une carriole tirée par une mule pour transporter le matériel nécessaire. Émetteur de 6 watts, table de mixage, micro, ordinateur, plusieurs mètres de câbles divers et variés, antenne FM et bien d'autres choses encore. Pour ce voyage dans le temps, l'espace et les ondes, la radio et notre monture nous servent de sésame. En guise de bande-son, l'écho rythmé des sabots de café, notre première mule a les ânes d'âge respectable. Durant la guerre civile espagnole, en 36-39, les combattants républicains creusèrent des tranchées sur certaines de ces collines pour contenir l'avancée fasciste de l'armée de Franco et des phalangistes. Le front tint durant tout le conflit jusqu'à la défaite de la Deuxième République espagnole. Auparavant, les troupes napoléoniennes traversèrent elles aussi la Sierra, ne manquant pas de goûter au vin local et au chevreau à l'ail. Cette contrée a été une terre partagée, divisée en plusieurs territoires, au fur et à mesure du déclin d'Al-Andalus et de l'avancée chrétienne. Aujourd'hui, entre les restes de tours de guet arabes et les antennes de télécommunications, on distingue surtout les ruines éparses des métairies, appelées cortijos en Andalousie, tels des ossements desséchés. Dans ces constructions de pierre et de chaux vivaient ceux qui travaillaient les champs. Certaines de ces exploitations agricoles plantées au milieu de grandes étendues pouvaient loger plusieurs groupes familiaux. D'autres étaient plus modestes. Des familles nombreuses y travaillaient les terres de propriétaires. Les premiers jours, la mule café tire une carriole bleue, qui semble tout droit sortie d'un western. 3 mois durant, de mai à fin juillet, 2 années de suite, nous serons autant muletiers que journalistes de radio parcourant plus de 400 km à travers la Sierra, tout en émettant, au plus près de la vie des habitants, des émissions à l'image de la diversité des personnages, villages et paysages rencontrés. Avant de nous élancer, 2 muletiers expérimentés nous donnent les derniers rudiments pour conduire à bon port carriole et monture. Enfin, et puis vient l'heure du départ. Il était temps, durant la dernière semaine de préparatifs, tous nos projets semblaient tomber à l'eau ou rester en suspens. Daniel, mon ancien colocataire, tout juste arrivé d'Allemagne, se joint au groupe dont la taille variera au cours de ses semaines de voyage, bientôt suivi d'amis, de membres de la famille venus nous prêter main forte sur certains tronçons de trajet.
Il nous manque un coq et une chèvre !»
nous lance Hilar, un villageois au passage de notre improbable attelage. Nous aimerions blaguer un instant à ses côtés, mais le câble du frein de la carriole se bloque sans arrêt. Faut alors qu'on tape dessus à l'aide d'un bâton pour le débloquer. L'entrée et la sortie des villages sont scandées par les aboiements des chiens. Sur la route, le rythme assez lent de café crée vite à l'arrière une file de voitures qui tentent de doubler. En général, les automobilistes sont guère d'humeur à patienter. Et parvenus à notre hauteur, les mines impatientes laissent place à des sourires étonnés, des saluts. Il y a ceux qui font demi-tour pour contempler le tableau de face ou nous proposer de l'aide. Ceux qui klaxonnent se désespèrent devant le peu d'effet produit sur le vieux café qui jamais ne force son allure. Nous gravissons une longue côte jusqu'à la Cruz del Romeral, la croix du romarin, premier d'une série de calvaires disséminés. Ici se situait la ligne de front entre franquistes et républicains, témoins les vestiges des tranchées au milieu des oliviers et des champs d'asperges. Le calme et la brise de cette journée ne laissent rien deviner du champ de bataille et des enjeux d'antan. Café descend avec lenteur vers Frailes. Un groupe de vieux, assis au soleil sur un banc de pierre, observe notre arrivée avec surprise. S'ensuit une conversation au cours de laquelle chacun d'eux raconte la manière de travailler jadis avec les animaux de bas.
Tu as des tâches café ?
Me demande Daniel qui me réveille au milieu d'une sieste bien méritée. Il a l'air si sérieux que je crois à une blague. Devant ma stupéfaction, mon compagnon profère un juron en allemand et sans perdre le temps de penser en espagnol, il me résume la situation en anglais cette fois. « Ok, it's gone !» Il a filé. Notre attelage trône à quelques mètres de la caserne de la garde civile en bordure de route et au pied de la montagne. Autrement dit, le pire endroit pour égarer une mule de plus de 300 kilos n'ayant pas tous les papiers en règle après notre départ précipité. Daniel s'élance vers la rivière. Quant à moi, je gravis à toute vitesse une pente proche. Les mauvais présages et l'angoisse m'assaillent. Après 2 heures de recherche infructueuse, nous interrogeons les rares personnes croisées. Tous esquissent un sourire avant de répondre par la négative. Ils n'ont pas vu de mulet marron. Dès le premier jour de l'expédition, nos beaux discours sur le passé, la transmission et les générations futures s'effondrent. Inquiétude, honte, devant notre malchance d'apprenti muletier. Vu depuis le sommet du versant, la carriole bleue délaissée symbolise l'échec que signifierait pour nous la perte de café. Au bout de plusieurs heures d'incertitude et de marche, nous retrouvons notre mule, attachée sous un arbre, à quelques mètres de la caserne, sans autre raison apparente. Un mois plus tard, notre deuxième monture, Antonella, s'échappera à son tour, et il me faudra lui courir après au petit matin en petite tenue. Pour notre premier direct à Frailes, 2 journées sont nécessaires afin de recueillir témoignages et histoires locales. Un studio est improvisé, l'émetteur acheté sur internet depuis le centre culturel municipal ainsi que l'antenne installée. J'essaie de bien fixer cette dernière pour éviter que le vent ne la fasse vibrer. Et 2 heures avant le début de l'émission, horreur, impossible de retrouver les écouteurs. Le magasin d'appareils électroniques le plus proche, qui fait aussi sex shop, est fermé le samedi après-midi. Il nous faut improviser. Dans la voiture de José Miguel, l'électricien de la mairie, les haut-parleurs et la petite chanifi qu'il a fabriquée lui-même sont connectés à la prise de l'allume-cigare. Du véhicule aux vitres baissées s'élève une annonce personnalisée à la manière des marchands ambulants de melons et de pastèques qui passent dans les rues l'été. Sur les places, devant les bars, nous répétons notre message en précisant l'heure et la fréquence. La scène se répète dans chaque localité traversée, mais l'expérience diffère à chaque fois. À Los Villares, un marchand de glace nous prête son mégaphone. À Jamilena, nos messages sont diffusés grâce à la sonorisation diffusant les arrêtés municipaux et les chants de Noël. À Castillo de Locubin, je manque de m'électrocuter en branchant directement l'ampli aux bornes de la batterie de l'automobile que l'on nous a prêtée. La première émission s'apprête à démarrer. Seule certitude, le signal atteint le village voisin. Des spectateurs sont déjà assis sur les escaliers de l'entrée et 2 invités attendent sur le pas de la porte. Le maire et l'écrivain Michael Jacobs. Face au micro, muni des nouveaux écouteurs parvenus in extremis, Michael Jacobs se décrit comme quelqu'un sachant nouer la conversation et rassembler des personnalités aux antipodes dans des situations souvent cocasses. Cet hispaniste et historien de l'art vit grâce à ses amis et pour eux. Ils sont nombreux, partout dans le monde. Sa ponctualité britannique s'est un peu effritée à Frailes, où le temps dépend des personnes que l'on croise avant d'arriver à destination. L'émission se prolonge durant plus d'une heure, suivie de reportages enregistrés et montés au préalable, consacrés aux chévriers et aux guérisseurs, ainsi qu'une rubrique reprenant les expressions populaires locales, agrémentées d'anecdotes recueillies auprès de la population. Lorsque tout est fini, antennes et émetteurs sont démontés, tables de mixage remisées dans une vieille valise, câbles et matériel rangés. Après une longue nuit de fête, la petite équipe de l'Area Radio doit changer de lieu, de fréquence radio, et tout recommencer. Café tire la carriole jusqu'à midi, avant le pic de chaleur, et se remet en route le soir, à la fraîche. Les haltes s'effectuent près des fontaines, à l'ombre d'un noyer, d'une allée de peupliers. Le voyage se poursuit avec, en poche, l'indispensable canif, et dans l'autre, un magnétophone numérique pour saisir sur le vif les témoignages. Sur le chemin reliant Frailes à Valdepeñas de Jaén, nous traversons la Hoya del Salobral, où vécut San Costidio, un guérisseur vénéré. Son portrait s'affiche en noir et blanc dans les maisons où il rivalise avec l'almanach. Devant, enfant, j'en étais venu à croire qu'il s'agissait d'un défunt parent éloigné que tout le monde aimait avec tendresse. Cette forme de religiosité populaire est très implantée dans la Sierra Sur. Les principaux saints ont pour nom Luisico, Custodio, Emmanuel. Certains habitants parcouraient d'énormes distances pour leur rendre visite et recevoir leur aide. Menant une vie austère, respectée même par ceux qui ne croyaient pas en leur pouvoir, ces guérisseurs ne se faisaient pas payer pour leurs services. On parle de guérison miraculeuse. et la pratique persiste. Manuel Amezcua en atteste. Il prépare les étudiants au métier d'infirmier à l'université de Grenade. Nommé responsable du service de santé du gouvernement régional andalou, Manuel a vécu quelques années dans la Sierra Sur. Au début, nous pensions à des phénomènes liés à l'isolement des populations. Par la suite, nous avons démontré qu'il s'agissait de cultures locales. D'aucuns pensaient que ces pratiques disparaîtraient avec l'accès généralisé aux soins, mais cela n'a pas été le cas. Les médecins vont jusqu'à conseiller à leurs patients de consulter le guérisseur local pour soigner une forme d'herpès communément appelée dartre. Au sommet du mamelon de la Mesa, la cavité où Saint Custodio avait coutume de prier est tapissée de photographies et d'ex-voto de toutes sortes. Mèches de cheveux, poupées, fleurs en plastique illuminées par des dizaines de chandelles. À proximité, l'église catholique a édifié un grand temple sous l'invocation de la Vierge de la Cabeza pour contrer le pouvoir d'attraction du Saint Guérisseur. Par temps clair, toute la contrée ourlée de monts rugueux, recouverts de chênes verts, d'oliviers en rang serré et de garrigues, déroule son faste jusqu'à la Sierra Nevada, au sud, avec ses sommets à plus de 3000 mètres. À la tombée de la nuit, une ferme abandonnée où sont parqués des chèvres fera un excellent bivouac pour se protéger du vent et de la surprise de ceux qui s'éveilleront avant nous. Aujourd'hui, Café a donné le meilleur de lui-même. Nous vérifions que sa charge n'a pas été abîmée. Le lendemain, notre attelage traverse d'éclatants paysages de printemps succédant aux ravins dans lesquels nous manquons d'être précipités. Le frein à main fait heureusement son œuvre lorsque se dessine au loin Valdepeñas de Jaén, avec ses maisons en miniature entrelacées dans le relief. Valdepeñas se situe en limite de l'imposante Sierra de la Pandera, traversée par une route sinueuse jusqu'à Jaén. Nous effectuons un détour pour éviter les rues les plus pentues du centre-bourg, labyrinthe de ruelles pavées aux noms étranges. La rue Siseace était autrefois un passage par lequel montaient les bêtes de somme. Comme sa construction n'était jamais achevée, elle a gardé ce nom, si incertain, littéralement « Oui, elle se fait ». Le père Paito, prononcé Pajito, nous reçoit avec une chaleureuse accolade à la table et la table déjà dressée. Thomas, de son vrai prénom, curé de Valdepeñas, nous invite à séjourner chez lui les 3 jours nécessaires à la préparation et à la diffusion de l'émission. Avant de s'attabler, le prêtre attache lui-même Café à l'ombre d'un grand noyer et coupe à son intention de l'herbe fraîche avec une antique faucille. En dépit de la température clémente, il allume son poêle avec un mélange de sa fabrication à base de cendres et de gasoil. Avec le feu, la ferme semble moins vide, assure-t-il. Après le déjeuner, nous embarquons dans sa vieille Volkswagen blanche qui débouche à pleine vitesse sur la place. Les villageois qui connaissent sa façon de conduire ont appris à anticiper ses arrivées tonitruantes. 2 jeunes gens, Danny et Raoul, à qui je demande mon chemin, se proposent de nous faire visiter les lieux à bord de leur voiture.
Los tres dieron la hermosura. hasta los olivos andaluces de Jaén.
¿Cuántos hilos de aceituna, los pies y las manos presos, son la sol y luna luna, pesan sobre nuestro cuerpo? Son estos olivos andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma de quién son estos olivos andaluces de Jaén.
Ojaras Queen, pétrolero, est le plus connu de tous, Sincero. Ici, le mot maquisard n'a pas de connotation romantique ou héroïque. C'est à peine si on l'emploie. Aucune rue ne porte leur nom, il n'y a pas de plaque commémorative. Seule la tombe fleurie de Tomás Villén Roldán, dit Sincero, Sonay, à Castillo de Locubín, rappelle son lieu de naissance. Fidèle à ses idéaux républicains, Sincero a fait de la résistance armée au régime du général Franco de 40 à 47 dans toute la Sierra Sur. Il a trouvé la mort dans une maison de Valdepeñas, sous les tirs de la garde civile, ayant reçu des renforts de toute la province. L'assaut aurait duré plus de 48 heures. L'histoire de ces guerrilleros a été étouffée par près de 4 décennies de dictature franquiste. Les maquisards sont encore décrits comme des malfaiteurs, bandits de grand chemin ou bandoleros. La question est restée longtemps taboue. La répression particulièrement cruelle envers les proches, les personnes ayant apporté une aide ou simplement soupçonné d'avoir aidé les maquisards, la peur et le silence se sont durablement installés. L'implacable période de l'après-guerre a mis à nu la misère. Chacun n'a eu le loisir que de travailler et tâcher d'oublier. En approfondissant cette dramatique histoire pour la radio, surgit un témoignage oublié. Gregorio, ou Gregorete, petit Gregorio, comme beaucoup de gens l'appelaient à Valdepeñas, a peut-être rencontré le guerrillero Sincero ou un de ses compagnons avant d'entamer son dramatique itinéraire. Juan Infante, le chroniqueur local, glisse une vieille cassette audio dans le magnétophone et appuie sur la touche play. S'élève une voix vieille et éraillée. « On nous a fait monter dans le train en gare de Strasbourg. » Puis nous avons marché pendant 2 jours. Arrivés en Autriche, dans le camp de concentration de Mauthausen, les nazis nous ont déshabillés, rasé la tête et les parties génitales et mis sous la douche froide en plein hiver. Une fois mis en rang entièrement nus, nous sommes entrés par la porte et l'interprète nous a lancé. « Espagnol, retournez-vous! Vous voyez par où vous êtes entrés ?» Il fallait répondre « Jawort ». Puis, nous devions tourner la tête de l'autre côté vers les cheminées et l'interprète traduisait. « Vous êtes entré par ici, vous allez ressortir par là-bas. » Après la libération du camp des Alliés, Gregorio s'en est retourné chez lui, à Valdepeñas de Jaén, travailler comme barbier, avec pour seul bagage sa propre histoire. Il n'a pas reçu un accueil honorifique de la part de ceux qui l'avaient fait déporter ou dénoncer. Comble de la cruauté, le chef de la phalange locale, le parti d'extrême droite fondé par Miguel Primo de Rivera, s'appelait Oswaldo Imcher. C'était de toute évidence un ancien nazi, réfugié dans ce village isolé. On ignore s'ils se sont parfois parlé et dans quelles circonstances. À nous d'imaginer si ces deux acteurs que tout opposait se sont regardés ou si Gregorete a quelquefois coupé les cheveux d'Oswaldo, le phalangiste. Après avoir écouté la cassette, je demande à Juan Infante comment on a pu ainsi laisser dans l'oubli le récit de celui qui pourrait être l'un des habitants les plus illustres du village. L'émission est diffusée en direct de la salle de réunion de la mairie de Los Villares. Une fois n'est pas coutume, le temps n'est pas au beau fixe. Nous nous interrogeons pour savoir comment faire venir la carriole depuis Torre del Campo. Un voisin propose son concours. Il nous explique que la récolte d'olives est mauvaise cette année. La monoculture de la province dépend des prix du marché de l'huile et des aides européennes. Autrefois, on redoutait une saison sèche dévastatrice. Désormais, on s'inquiète d'une possible réduction des subventions de la politique agricole commune. Ou de l'augmentation du gasoil. Il n'y a pas de véritable entente entre les petits et les moyens producteurs. La commercialisation et la valeur ajoutée profitent aux grandes marques. Et il n'est pas rare que les grandes marques italiennes achètent des stocks d'huile en grande quantité commercialisée sous leur enseigne. Les oliviers, eux, résistent à tout, aux brusques écarts de température entre hiver et été qui ont cours ici. Ils soutiennent une économie qui a besoin d'un nouveau souffle. Leurs racines survivent au manque d'eau, au gel, à la neige, au coup de vent. Ces rangées d'arbres qui ponctuent les paysages de leur masse arrondie évoquent immanquablement les vers écrits par le poète du peuple Miguel Hernández et rendus célèbres par la voix et la musique de Paco Ibáñez. De Torre del Campo à Martos, la carriole est définitivement abandonnée. Nous ne gardons que l'essentiel en attendant que la deuxième mule prenne le relais. Les sabots de café claquent sur le pavé. Alertés, des villageois se penchent par la fenêtre ou à leur balcon. Derrière leurs rideaux, en penchant la tête, peut-être reconnaissent-ils la rumeur d'une autre époque. Profitant de l'effet de curiosité et de surprise, nous parlons de notre émission de radio en nous assurant que le bouche-à-oreille fonctionne à plein. Le jour de marché, la messe du dimanche ou le match de football hebdomadaire constituent de redoutables concurrents. Aux arrêts de bus et dans les centres sociaux sont placardées les affiches annonçant le jour et l'heure du programme. À la sortie de Martos, sur le bas-côté de la route, entre les oliveraies et les prairies, nous longeons à pied des résidences secondaires avec piscines, toutes clôturées et surmontées d'un panonceau « Attention aux chiens ». Leurs propriétaires ne les occupent que durant l'été. Les automobilistes que nous croisons nous gratifient d'un nuage de poussière en guise de salut. De rares bergers rencontrés çà et là redonnent un peu d'humanité à des contrées victimes de la spéculation et de l'abandon. Les trajets à pied sont une source de discussion et d'inspiration pour les thèmes que nous allons traiter lors de notre prochaine étape. À la Fuesanta, café est mis au repos dans l'écurie d'Eduardo Chica, dit El Chiste, le blagueur, un villageois bienveillant. Direction le centre culturel. Juan Antonio y enseigne au sein du service d'éducation publique pour adultes. Ses élèves se divisent en deux groupes. L'un est composé de personnes âgées, surtout de femmes, sachant à peine lire ou n'ayant jamais été scolarisées. Ayant plus de 50 ans, elle se montre assidue, motivée, raconte le jeune enseignant. Ces dames n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Cette barrière, elles veulent la franchir. Intimidées au début, elles s'imaginent ne rien savoir. En réalité, elles connaissent bien davantage de choses qu'elles ne l'imaginent, leur expérience l'emportant sur l'enseignement officiel. Au bout de 15 jours, un mois, on note déjà des changements. La seconde catégorie d'élèves, auprès desquels Juan Antonio dispose son enseignement, comprend de jeunes adultes ayant interrompu leurs études pour travailler dans l'industrie locale du revêtement de meubles. Ce secteur était florissant, le travail abondait, attirait les candidats. Ceux-ci pouvaient acquérir une voiture, des biens matériels, le bénéfice était plus immédiat qu'en étudiant. Puis, la crise est arrivée, et tout ce secteur est parti à volo. Les chômeurs tentent désormais de réintégrer le système scolaire, d'avoir un meilleur accès au marché du travail. La fine cloison entre les deux salles de classe sépare ces deux générations. Mettant côte à côte la faim et l'envie de manger, selon un vieux dicton espagnol. Afin de fixer notre antenne, nous empruntons le support du parasol du restaurant. Les habitants de la Fuensanta pourront ainsi écouter le récit d'Amalia et son don pour la poésie. Une pièce radiophonique est diffusée grâce à l'enthousiasme des deux voisines passionnées de théâtre. À notre contact, un groupe de jeunes rencontrés dans une localité voisine décide de créer une radio locale. Derniers instants avec le fidèle café qui repart pour Grenade. Notre nouvelle mule, Antonella, plus jeune et plus robuste, le remplace. Avec ses montures à remonter le temps, cap sur Alcaudete, une ville de plus de 10 000 habitants qui abrite une importante communauté gitane. Celle-ci vit de la vente sur les marchés et des travaux agricoles et saisonniers. Avec Alcalá de la Real, ici s'élève la limite entre la vallée de Guadalquivir et celle du Renil de Grenade, jadis carrefour commercial lors de la reconquête contre les musulmans. Sur la place centrale d'Alcaudete, on nous indique un endroit où laisser les animaux et le matériel. Notre arrivée en fin d'après-midi semble distraire les villageois présents. À deux gardes civils en patrouille, nous assurons que nos montures vont bientôt libérer la place de stationnement qu'elles occupent. Un homme âgé de grande taille, casquette grise, s'appuyant sur une canne, s'approche. Visage aux traits prononcés, teint brun et voix rauque, Diego s'intéresse à Antonella. À l'examen de ses dents, il nous donne son âge avec l'assurance de celui qui se fie davantage à son instinct qu'à la fiche vétérinaire. Il est d'accord pour apparaître dans notre reportage, trop heureux de partager son expérience. Rendez-vous est pris quelques minutes plus tard au casino de la Aurora. Ce café possède un immense salon, haut de plafond, où trône un comptoir en bois trop long pour un seul serveur. Sur un mur, le trophée d'un taureau de corrida voisine avec des images de la Semaine Sainte, telles des portraits de stars de cinéma. Diego nous attend déjà. Toute sa vie, celui que l'on surnomme Sanson le gitan, a commercé chevaux, mulets et ânes dans les foires à bestiaux. Les animaux se reposaient à l'ombre des promenades arborées ou dans les camps moissonnés en attendant la transaction. Ses énormes mains ponctuent la conversation de gestes rapides. Il parle en frappant sur la table en bois avec l'articulation de ses doigts. Avec 4 ou 5 autres maquignons aidés de nos épouses, nous gérions ce commerce aussi sûrement que les lèvres vont au cigare. On dormait sur les marchés et le soir on allait chercher de l'herbe dans les ravins. À l'époque, les bêtes nous faisaient vivre. Mais de nos jours, qui veut nous les acheter? Ce métier fut également celui de mon grand-père. Il fallait être malin, avoir le sens du contact et être convaincant. On gagnait parfois ou on perdait, c'était quitte ou double. Se souvient Diego qui a toujours préféré cette glorieuse incertitude au travail journalier commençant à l'aube sous l'autorité d'un patron ou d'un contremaître. Les tractations se tenaient dans les tavernes et pouvaient n'aboutir qu'à l'issue d'âpres discussions après bon nombre de verres de vin. La poignée de main finale était un contrat sacré dont la valeur l'emportait sur un document signé. Pour installer l'antenne sur l'une des tours de la forteresse d'Alcaudete, la mairie nous prête l'échelle qui sert à réparer l'éclairage public. À Alcalá la Real, nous rendons visite à Raphaël. À près de 80 ans, l'observation du ciel le fascine depuis l'enfance, lorsqu'il prétendait apercevoir les anneaux de Saturne. La première boucle du voyage se referme à Santa Ana, notre point de départ il y a presque 2 mois. Margarita et Antonella vont se reposer quelques jours avant de reprendre la route vers la Sierra de Cazorla. Il reste encore 1 mois d'itinérance. Dans le bar de Cano, je retrouve Luis, un vieil ami qui m'a fait comprendre l'importance de chercher, raconter et transmettre. Lors de notre première rencontre il y a 7 ans, assis sur le tronc sur lequel il casse les amandes en hiver, Luis m'a conté un épisode l'ayant marqué. C'était un matin de la Saint-Jean, la guerre civile. La guerre civile avait été remportée par Franco. Du haut de ses 10 ans, il était parti chercher du pain avec 2 autres enfants de son âge. Plus de 30 kilomètres, en marchant presque toujours en dehors du chemin comme des criminels. Poursuivis par la garde civile, les gosses durent se jeter dans la rivière. Acheter ou vendre certains produits hors du rationnement officiel était sévèrement puni, assimilé à de la contrebande ou du marché noir. Son récit finissait de cette façon. Par toutes ces peines et mon travail, j'ai aidé à élever mes frères et sœurs. J'ai élevé mes enfants. Et maintenant, j'élève mes petits-enfants. Les choses sont ainsi. Telle est l'histoire de Luis Alvarez Martin. Plus de 75 ans après cette matinée de la Saint-Jean de faim et d'angoisse, à l'instar de Luis et ses jeunes amis, notre petite caravane quitte ce même village de Santa Ana. Nos esprits, couffins et sacs à dos, sont encore remplis des paroles de celui qui respire la poésie. Désormais, elle voyage à dos de mule, à travers les ondes d'une radio itinérante, éphémère ou sur la toile, à la recherche de souvenirs de pain et d'eau.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, bonsoir. On vous a lu ce soir un récit d'un muletier, un journaliste espagnol. Voilà, la préparation de cette émission a été aussi rocambolesque
que l'expédition
en mule d'une radio itinérante à travers l'Andalousie.
Mais
on a essayé de faire au mieux avec les surprises et la précipitation.
Voilà, et c'est quoi qu'on a lu en fait?
C'est un article d'une revue qui s'appelle Gibraltar. Là, c'est la numéro 4.
On vous la conseille, c'est vraiment très chouette.
C'est plusieurs reportages, là c'est autour de l'Italie, des mafias en Italie, donc la radio itinérante en Espagne, le paradis naturiste de Marguerite à l'île du Levant. Voilà,
ce qui regroupe Gibraltar, je crois, c'est que des trucs qui sont tournés ou
autour de la Méditerranée.
Réalisés autour de la Méditerranée, ouais, c'est ça.
Ouais, un peu plus large. Voilà, du coup, donc c'était Alejandro Pérez, le journaliste.
Alejandro Pérez.
Voilà. Traduit de l'espagnol par Mathilde Vincent. Et les illustrations, qui sont bien chouettes aussi, de Elsa Montlapic.
Ah oui, elles sont très jolies. Elsa Montlapic, c'est ça?
Montlahu. Ouais, c'est un peu comme la U radio. Montlahu. Voilà, pardon Elsa.
Voilà.
Donc, si vous voulez réécouter l'émission, c'est en podcast sur le site, sur le blog de Lu et Approuvé. luetapprouvé@noblogs.org.
C'est ça.
Et pour nous écrire un petit message, c'est luetapprouvé@guyade.org.
Et si vous voulez nous écrire des lettres, ce serait chouette. Eh bien, nous écrire des lettres, c'est au 40 rue Alfred Duméril, Radio Canal Sud, émission Lu et Approuvé, 40 rue Alfred Duméril, 31400 à Toulouse. Et voilà, ici, ouais, ce serait chouette. Et si vous voulez nous envoyer même des textes, c'est à la même adresse. C'est vrai.
Voilà, et ben on va vous quitter là-dessus. C'était une bonne nuit.
Bonne nuit à toutes et à tous, à la semaine prochaine, mercredi 23h30.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world.